Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza, le 23e épisode, incroyable. Bienvenue Stéphanie.
Bienvenue Hans.
Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui comme presque toujours, un direct avec un participant de la délégation belge de la flottille. On va essayer de l'avoir, mais je ne sais pas, peut-être qu'il fait sa vaisselle. Un instant. Oui, je pense que c'est le cas. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas?
Eh bien, on écoute l'interview préenregistrée.
Tout à fait, avec Nabila.
Oui.
Nabila est de Gaza, mais ça fait quelques mois qu'elle a pu partir de là. Mais elle va vous raconter tout ça elle-même.
Premièrement, bonjour. Je suis Nabila Kilani, palestinienne de la bande de Gaza, enseignante d'anglais et fondatrice de deux centres, un centre éducatif pour les enfants défavorisés au nord de la bande de Gaza, à la ville de Betlaga, et également fondatrice d'une clinique de psychothérapie pour les enfants qui souffrent des traumatismes liés aux offensives israéliennes.
Oui, et où est-ce que vous vous trouvez à Gaza?
Moi, en ce moment, je suis sortie de la bande de Gaza après 7 mois de ce génocide, parce que j'étais blessée.
Oui.
Et j'étais évacuée avec ma famille. En ce moment, je suis en Turquie.
Ah oui, ok.
Ouais.
Voilà. Et j'imagine que vous êtes en contact régulier avec votre famille ou vos amis à Gaza?
J'ai encore ma grande fille qui a 19 ans qui est encore à Gaza. Et elle n'a pas pu sortir, malheureusement. C'était prévu qu'elle sortait dans les jours suivants de ma sortie, mais le problème qu'il y avait la fermeture ferme du passage de Rafah. Et il y a ma famille paternelle. Il y a aussi mon équipe, parce qu'on travaille avec plusieurs associations internationales pour aider les Palestiniens à survivre ces circonstances actuelles. Ce qui fait que je vis chaque moment avec les Palestiniens et avec tout ce qui se passe. En tout cas, on est de Gaza, on ne peut pas se séparer de Gaza.
Oui.
On attend juste le jour que ça se termine pour qu'on rentre et pour pouvoir reconstruire Gaza. Voilà. Et Gaza, elle est petite, on se connaît, et tant qu'on est professeur ou bien enseignante, on connaît la plupart de Gaza, la plupart des gens de Gaza.
Oui, et il y a quelques jours, on a interviewé un réfugié palestinien qui est en Belgique depuis un peu plus d'un an, un an et demi, et qui a aussi sa famille qui est toujours à Gaza, et qui nous disait qu'il n'attend qu'une chose, c'est de retourner là-bas parce que c'est sa terre. Donc oui, j'entends l'amour l'amour de la terre et l'envie de retour. Est-ce que je peux vous poser une question? Ici, loin de Gaza, que nous sommes, nous avons les yeux sur la télévision ou sur Internet pour avoir des nouvelles et pour voir ce que l'on peut voir de ce qui se passe. Est-ce que ce que vous voyez, ça correspond à la réalité ou est-ce que...
En fait, en ce qui concerne ce qu'on voit sur les écrans ou bien dans surtout les médias, ça montre qu'une petite partie de tout ce qui se passe en réalité. Mm-hmm. On voit l'atrocité, on voit la barbarie de l'occupation et de son armée, mais on ne voit pas beaucoup les détails d'une vie quotidienne des familles déplacées, des familles dont les maisons étaient bombardées, d'un enfant qui vit sa famille après leur mort, mm-hmm. leur assassinat, si mm-hmm. je me permets de dire aussi. On ne voit pas les détails de la vie d'une femme qui n'arrive pas à manger alors qu'elle donne le sein à son bébé et encore pire, qu'elle n'arrive pas à donner à manger à son autre fille ou fils, à notre enfant. Cette souffrance, on ne la voit pas. Ouais. On ne voit pas la souffrance de l'incapacité d'un papa qui est le responsable, selon la culture, la culture palestinienne, de toute la famille. On ne voit pas les douleurs de son impuissance de protéger sa famille ou bien de donner à manger à sa famille. On ne voit pas, on ne peut pas croire. Moi, je le vois, j'ai déjà vécu ça parce que j'étais bombardée dans les meubles où j'étais. Ils ont bombardé le 6e alors que j'étais au 4e. Oui. On ne voit pas cette panique et cette réaction de survie et à quel point on se sent incapable de protéger les gens qu'on aime. On ne voit pas dans ces médias les douleurs des Palestiniens qui sont sortis de la bande de Gaza et qui ont le cœur qui est encore à Gaza et que chaque destruction tue une cellule de leur cœur parce que ceux qui ont vie et qui vivent à Gaza, Gaza c'est leur cœur en fait.
Ouais.
Et à chaque fois il y a quelque chose qui est détruit. Il y a des souvenirs et une partie de leur mémoire qui les Israéliens en fait veulent l'effacer, mais ils ne pourront jamais en fait. Mais ça fait beaucoup de mal. Alors tout ce qu'on voit, ça montre le côté barbare des Israéliens, ça montre la souffrance palestinienne, mais ça ne montre pas les difficultés et les détails de difficultés de la vie quotidienne des Palestiniens. En plus, on ne voit pas aussi... les pensées des Palestiniens. On ne voit pas leur déception de la communauté internationale. Ça, on n'en parle pas. Autant qu'une population gazaouite, on la voit pas. On n'entend pas les cœurs palestiniens qui prient que le monde arabe et musulman bouge, parce que ça fait une partie de l'unité géographique aussi religieuse et aussi culturelle. En même temps d'un côté et de l'autre côté, les prières des Palestiniens, des enfants, des femmes, des hommes, de tous les Gazaouis qui prient que le monde dite, que les pays dits protecteurs de la paix et des droits de l'homme, et qu'ils bougent pour qu'ils arrêtent un seul État qui peut violer tous les normes et tous les résolutions et tous les droits de l'homme devant tout le monde et surtout que c'est la première fois dans la vie que les victimes documentent en direct les massacres et les violations devant les yeux de tout le monde. Alors que ces pays, normalement, comme l'Europe, comme la Belgique, comme surtout la France, comme les États-Unis, qui prétendent et qui créent l'ONU, le Conseil de sécurité pour garantir la paix du monde, ils n'arrivent pas à arrêter. Au contraire, c'est pas juste qu'ils n'arrêtent pas ce massacre et ce génocide. Au contraire, il y a les États-Unis qui aident Israël et qui protègent Israël avec les veto et avec même son feu vert à tout faire.
Oui.
Tout ça, on ne le voit pas dans les médias.
Oui, tout à fait.
Et selon vous...
Vous ne voyez pas, par exemple, mais de l'or à moi, quand j'entends qu'il y a un bombardement à Nusayrat, et quand il y a une coupure d'Internet, comment je meurs chaque seconde pour savoir si ma petite, elle est encore vivante ou pas.
Ouais.
À quel point je déteste que je mange alors qu'elle me dit qu'il n'y a rien.
Oui.
Ça, on ne le voit pas dans les médias.
Absolument.
Mais ça, je suis à l'extérieur de Gaza. Imaginons les mamans à l'intérieur. Moi, je travaillais aussi avec une association pour les femmes. Et du coup, je connais pas mal de femmes. Et il y a un groupe sur lequel j'entends leur conversation. Je dis ça, c'est au-delà de capacité humaine à supporter quand ils disent « Voilà, mon bébé est décédé parce qu'il a faim. » Je ne crois pas aussi, parce que je travaille avec des associations, des fois, ils me posent des questions, que ça montre qu'on ne comprend pas les difficultés de la vie quotidienne à Gaza. Ils me disent, bon, peut-être les gens, ils se sont habitués quand même au déplacement. Si je vous demande, monsieur et madame, de sortir de là où vous êtes, avec vos vêtements, si vous avez la chance de sortir avec vos vêtements, et vos portables, et vous êtes dans la rue, et c'est ça votre vie. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette, pas d'argent, sans rien. Mais quand même, vous êtes en sécurité là-bas, vous n'allez pas comprendre bien comprendre la situation. Mais si je vous demande de rester comme ça, et pour à vie, hein, on ne sait pas où aller, comment faire. Parce que vous étiez bombardé, ou bien c'est quelqu'un que vous a chassé de votre maison.
Oui, c'est très important d'entendre ça. C'est vraiment très très important que vous qu'il y ait des gens comme vous qui puissent dire ça et qui puissent porter cette voix-là. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'arrive pas jusque chez nous par la presse ou par Internet. Et donc c'est essentiel. Moi, j'ai une question. Vous occupez d'enfants, notamment. Vous avez créé un centre qui s'occupe...
Enfants et femmes.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de conséquences pour la vie d'un enfant, cette vie-là, pour le moment?
D'après mon expérience avec les enfants, si je peux me permettre de parler, Yanni, de l'expérience que j'ai.
Oui.
Les Palestiniens ont un attachement. Un enfant, hein, je parle d'un enfant, et je généralise avec... quand je parle d'un enfant, c'est les Palestiniens, parce que c'est plus de la moitié de la société. Un enfant, il est toujours... Premièrement, il y a les douleurs. C'est comme si on est en train de voler l'enfance d'un enfant. Un enfant qui est normalement en train de jouer, il va à l'école. Ça fait 2 ans que les enfants palestiniens ne voient pas c'est quoi l'école. Ils sont toujours en danger. Ils sont au mode de survie, c'est pas au mode de vie, en fait. Vivre, c'est pas la priorité. C'est juste vivre la priorité en ce moment. Un enfant palestinien, c'est pas comme un enfant du monde entier, malheureusement. Il subit maintenant des responsabilités. Depuis qu'il se réveille, il cherche comment à trouver de l'eau, à chercher s'il y a un endroit qui distribue des repas. Il essaye de trouver quelques bouts de bois pour faire plaisir à sa maman, pour qu'elle puisse cuisiner s'ils ont quelque chose. Un enfant, il essaye de réduire la quantité de sa nourriture pour qu'il puisse partager avec sa famille. Et maintenant, ils sont conscients que leur comportement doit être calculé et doit être en faveur de faire plaisir à leurs parents, parce qu'ils se sentent qu'ils sont responsables. Un enfant, un bébé, on voit sur les vidéos qu'un enfant qui à peine fait des pas, il prend un bidon pour chercher de l'eau, une petite assiette pour qu'il s'assoie, ou bien
oui, tout
reste dans une queue, où on ne sait pas la faim. pour avoir un petit bout peut-être de soupe de lentilles pour qu'ils mangent. Ça, ce n'est pas une enfance, mais d'après mon expérience, si on finit cette agression, cet enfant, il se sentira beaucoup plus responsable à reconstruire sa terre. Croyez-moi, il y a un secret de vie à Gaza qu'on ne trouve pas, et surtout en Palestine, mais surtout à Gaza, qu'on ne trouve pas ailleurs. Un attachement naturel profond qui est accompagné par une foi profonde que cette terre est palestinienne. Dès le deuxième jour de l'arrêt de ce génocide et ce massacre, vous allez trouver comment, vous allez remarquer comment les Palestiniens ils vont essayer à reconstruire. On a l'habitude de vivre malheureusement les attaques israéliennes, malgré que cette attaque elle n'est plus comme les mêmes. Moi j'ai survécu toutes les attaques, mais cette attaque elle est incroyablement brutale,
ouais.
Elle est barbare et elle est au-delà. À chaque fois on pensait nous les Palestiniens qu'il y a un plafond de la haine et de la barbarie et de l'agression et de la violence israélienne. Mais malheureusement, à chaque fois, ils prouvent qu'ils ont beaucoup plus qu'on croit. Parce que nous, comme on est des êtres humains qui vivent leur vie tranquillement, normalement sur leur terre, on ne pense pas à toute cette brutalité. Mais eux, comme ils ne se sentent pas en sécurité et ils savent qu'ils ont volé de la guerre, ils montrent leur pire pour essayer de dominer. Mais ça ne passe pas parce que cette terre est palestinienne, tout simplement. Et comme on dit, ça c'est le naturel. Cette terre est palestinienne, elle a envie. C'est pour cela, moi j'attends que je rentre. Et celui que vous avez interviewé, il attend qu'il rentre. Et tous les Palestiniens, ils attendent pour qu'il rentre. On ne trouve pas de vie en dehors de la bande de Gaza. Revenons aux enfants. Alors je sais que ces enfants qui souffrent maintenant, ils sont notre espoir pour l'avenir de Gaza. Mais malheureusement, j'aimerais bien qu'on arrête en ce moment leur souffrance pour qu'on puisse parler de ce qui va nous arriver le lendemain,
ouais,
de cet arrêt.
Ouais. Une question que l'on se pose ici, en Belgique et partout ailleurs où il y a un soutien populaire vraiment important à la question de la Palestine et on voit ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens en Europe, par exemple, pour venir en aide à la population, ou qu'est-ce que vous attendez, ou qu'est-ce que les gens de Gaza et de Palestine attendent de ceux qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas cette situation?
Ce qu'on comprend maintenant mieux, beaucoup mieux, que la position d'un gouvernement en Europe n'a rien à voir avec la position de la population, de sa population, ce qu'on ne comprend pas parce que ça ne fait pas partie de la définition de démocratie qu'on connaît, nous, les Palestiniens. Comme je vous ai expliqué que normalement, c'est le rôle de ces gouvernements d'arrêter ce qu'on attend, mais on voit qu'il y a une... On ne comprend pas la raison de cette impunité pour Israël. Mais en même temps, on voit qu'il y a une lueur d'espoir qui sort du cœur des gens qui sortent dans les rues pour manifester, pour dire que l'humanité, ce n'est pas comme ça, qui demande de l'arrêt, de stopper et d'arrêter immédiatement ce génocide. Le fait de faire des manifestations, c'est une participation, immense participation pour les Palestiniens, parce que ça nous donne de l'espoir dans cette ambiguïté et dans cette mort qui nous entoure partout. Alors, le fait de parler de la Palestine et de dire que vous croyez que cette terre est palestinienne et qu'on est sur nos terres et que les Israéliens sont en train de violer tout ce qui est normal, ça c'est déjà ce qu'on attend des populations, des êtres humains normaux, des êtres humains. Et pour être pro-palestinien, il faut être pro-humain au début. Parce que ce qu'on voit, c'est au-delà de l'humanité. C'est quelque chose qui déforme toutes les formes de l'humanité. Après, on attend aussi, en ce moment, la population gazaouite n'est pas une population mendiante, mais en ce moment, on a besoin des dons pour qu'on puisse renforcer la résilience et la survie des Palestiniens gazaouis sur leur terre, dans ces contextes, dans ce contexte et ces conditions. On salue beaucoup le BDS.
D'accord.
Et on admire BDS. On est très heureux d'avoir des flottilles et des gens qui représentent leur pays, qui prennent la responsabilité et qu'ils sortent et qu'ils traversent les voilà des océans pour qu'ils essayent de comment dirais-je, de montrer et d'aider, de montrer la violence et la barbarie israélienne et qui essaie aussi d'aider les Palestiniens et de briser ce siège imposé depuis beaucoup plus de beaucoup plus avant le 7 octobre.
Oui.
Ça date plus de 16 ans en ce
oui.
moment. Il y a des gens qui disent non à leur gouvernement, ce qui montre qu'il y a encore de la démocratie, il y a encore des libertés, il y a encore des gens qui croient à la humanité, aux droits de l'homme, comme nous on croit au droit, à notre droit à rester, à vivre sur nos terres. Tous ces gestes sont des gestes qui sont très appréciée par les Palestiniens. La population gazaouite, elle est une population très cultivée et elle suit très bien et attentivement tous ces gestes parce qu'ils ont besoin de ces gestes. Alors, BDS, aider les associations qui aident les Palestiniens, beaucoup plus de manifestations, beaucoup plus de pression sur les gouvernements qu'ils jouent les aveugles devant tout ce qui fait Israël. Ces flottilles, ils sont comme des pigeons de paix qui essayent de traverser cette nuit de barbarie israélienne qu'on apprécie beaucoup. On attend que vous nous écoutez de plus en plus, parce que moi, je suis une femme qui ne cherche pas, par exemple, je suis une Palestinienne, qui ne cherche pas la paix, qui ne cherche pas la guerre, que je veux juste retourner chez moi, malgré qu'ils ont détruit ma maison, ils ont bombardé ma bagnole, même la maison, ils ont effacé, ils ont effacé tout mon village. Mais j'ai envie de retourner, j'ai envie de vivre. Je n'ai pas envie que les autres meurent. Moi, les Palestiniens, ils ne sont pas comme les Israéliens. Ou bien l'armée ou le gouvernement israélien. Parce que moi, j'ai des amis juifs. J'ai beaucoup d'amis juifs qui sont en Israël et qui sont contre cela. En fait, je ne souhaite jamais la mort pour les gens. Les Palestiniens, ils aiment juste vivre. Et je ne veux pas chasser quelqu'un, on veut juste qu'ils nous laissent vivre sur nos terres. S'ils veulent vivre en Palestine parce qu'ils ne trouvent pas où vivre, ben ils sont les bienvenus. Tout le monde est. Vous êtes les bienvenus pour vivre avec nous si vous avez pas, ou vous avez envie de rester avec les Palestiniens pour vivre en Palestine. C'est ça qu'il faut faire entendre au monde entier, que la population palestinienne, elle est une population simple, éduquée, qui veut vivre en paix avec tout le monde sur leur terre, et tout le monde est le bienvenu en Palestine, comme Palestinien, comme vous voulez, allez, mais juste qu'ils nous laissent vivre. Faire écouter des voix palestiniennes est très important, surtout que le lobby israélien contrôle plus en plus les médias et déforme la réalité. Je tiens à vous remercier aussi de m'avoir écouté, de m'avoir donné cette chance pour parler. Et voilà, c'est ça ce qu'on attend de tout le monde.
Voilà, nous revoilà. J'ai vu que notre correspondant est toujours en train de faire sa vaisselle parce qu'il n'a pas vu notre message, donc je pense pas que c'est la peine d'essayer de le rappeler. En plus, il est assez tard, enfin tard pour nous. Voilà, Stéphanie, tu peux peut-être faire un petit tour des nouvelles qu'on a eues de la flottille.
Oui, alors si vous regardez le tracker public qui se trouve sur le site internet de la Global Summit Flottille, il y a un onglet tracker, et vous apercevrez que la flottille, le gros de la flottille est au niveau de la Libye, donc pas dans les eaux libyennes, mais au niveau de la Libye, du côté de Benghazi. Ils ont dépassé ce niveau-là. Et donc ça avance. ça avance pas très très vite, mais ça avance clairement. Peut-être aussi qu'il faut rappeler qu'il y a eu des drones qui ont tourné encore la nuit dernière. Alors il faut savoir que, et on l'a déjà dit ici, mais c'est important de le redire, que c'est une zone de la Méditerranée où il y a beaucoup de drones, et indépendamment de la flottille d'ailleurs, puisque c'est une zone qui est très contrôlée par Frontex, par la Grèce, pour la question des migrants, etc., l'Italie. Et donc c'est compliqué de savoir d'où viennent ces drones, voilà, mais c'est une réalité, et c'est une réalité qui va certainement se reproduire encore pour les jours qui viennent. Peut-être aussi, sur un point plus positif, c'est dire que l'Assemblée générale de l'ONU ouvre, la 80e, hein, si mes souvenirs sont bons, ouvre ce soir, donc pour nous c'est 21h je pense, quelque chose comme ça, et qu'une bonne dizaine de pays en plus vont reconnaître, ont annoncé vouloir reconnaître la Palestine, dont la Belgique, la France, l'Australie, la Grande-Bretagne, voilà. Voilà.
Ok, alors on touche à la fin de l'émission. Demain, ce n'est pas tout à fait sûr, mais je pense qu'on aura enfin Rami Abu Jamous. Enfin, on l'a déjà eu, on a déjà pu faire des enregistrements. L'Internet coupe tout le temps, donc c'est un peu le parcours du combattant. Mais on va essayer de faire ça pour demain.
Oui.
Voilà. Donc,
à demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radio...
Eh bien, ce n'est pas la fin de l'émission, parce que Alexis a réagi, donc on va l'appeler directement. Allô, bonjour Alexis.
Bonjour Hans.
Ah, tu es là, c'est bien, super.
Oui, désolé, j'ai raté le rendez-vous précédent, j'étais à la corvée vaisselle et ça m'avait sorti de la tête.
Ah ben, c'est ce que Stéphanie nous a dit en fait, que tu faisais la vaisselle. Mais voilà.
Elle a vu à l'écran que je faisais
oui,
la vaisselle.
Oui, oui. On t'a dénoncé, mais c'est pas grave. Hein.
Mais au moins tu vois que c'est pas parce que je faisais la sieste. Hein.
Non, tout à fait. Et puis il y a des tâches quotidiennes à effectuer. Hein, effectivement, c'est la réalité aussi, même sur un bateau, j'imagine. Donc surtout sur un bateau.
Tout à fait. Et c'était assez sportif parce qu'il fallait faire la vaisselle à l'arrière du bateau. Donc j'ai dû m'attacher, me harnasser pour pouvoir faire la vaisselle sans tomber à l'eau.
Ah oui, 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 parce qu'effectivement, j'imagine que ça bouge encore beaucoup. La mer est encore agitée.
Non, la mer s'est calmée, mais ça bouge quand même. Il y a des rouleaux, ouais. Et donc il faut faire attention. Quand on est à l'arrière sur la petite plateforme, là, il faut s'attacher.
Oui, pour ne pas prendre un bain forcé, c'est ça.
Mais voilà, et parce qu'après le bateau il avance, il doit faire demi-tour, donc
ouais, c'est compliqué. On vous voit avancer sur le tracker, Et ça, c'est bien. Vous êtes au niveau de la Libye, enfin pas dans les eaux libyennes évidemment, mais au niveau de la Libye. Est-ce que tu nous donnes quelques nouvelles de ce trajet? Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe mieux?
Ça se passe bien. J'ai beaucoup d'écho sur la ligne. Je ne sais pas si on peut arrêter l'écho. Je m'entends deux fois.
Je ne pense pas que je peux faire quelque chose.
Ok. C'est faisable. On va continuer comme ça.
Ok.
On est très content de naviguer en flottille avec les bateaux qui nous ont rejoints d'Italie. Voir tous ces bateaux ensemble dans un carré de, je ne sais pas, 1 000 nautiques ou 2 000 nautiques, c'est très impressionnant. Ce matin, au lever du jour, de voir tous ces bateaux avec la mer toute bleue, c'est même émouvant de voir, voilà, la flottille, elle est là. Elle avance, il n'y a plus de stop jusqu'à Gaza, il y a juste les bateaux de Grèce qui vont nous rejoindre, on sera environ une cinquantaine, donc l'objectif est atteint, et on est préparé aux différents scénarios, on s'y prépare sur le bateau, et donc voilà, la journée aujourd'hui a été un peu compliquée parce que notre médecin Yacine a dû aller sur un autre bateau. Donc, on a dû faire un abordage avec un grand bateau à moteur qui a failli mal se passer. Ils ont un peu défoncé nos protections. Et finalement, il y a un Zodiac qui a fait le transfert. Mais voilà, donc ça, c'était un peu l'événement de la fin de matinée. Et là, on a différentes tâches encore à remplir. Par exemple, ils ont demandé que chaque bateau fasse bien l'inventaire de toute l'aide humanitaire qu'on a à bord pour qu'on puisse avoir l'inventaire complet, surtout depuis que les autorités israéliennes ont commencé une smear campaign pour nous discréditer et où on a un Premier ministre qui a embrayé le pas en disant au Parlement « si », et je le cite, il disait « si », et c'est un grand si. L'objectif est d'apporter de l'aide humanitaire. Ce n'est clairement pas la meilleure manière. Et je n'ai toujours pas compris ce qu'il sous-entendait avec son « et c'est un grand si
».
Sauf que ce personnage est d'un cynisme désabusé qui pourrait être drôle si on parlait d'autres sujets, mais ici qui est une honte absolue quand on parle de Gaza et de la famine organisée par les autorités israéliennes et du génocide en cours. Et donc, je trouve qu'il s'est déshonoré. Il lui reste 5 jours pour se rattraper. Et si je dis 5 jours, c'est parce que, comme tu disais, on avance.
Oui.
On est en train de passer entre la Crète et la Libye. Et on est à 700 miles nautiques de la côte de Gaza. On sait que la zone à risque, basée sur des interceptions précédentes du Madlin et du Handala, se situe environ à 150 milles de Gaza dans les eaux internationales. Et donc, c'est là que ça va commencer à devenir très chaud, très stressant. Et là, on devrait arriver samedi ou durant le week-end.
Oui.
Et donc, il reste une semaine pour nos responsables politiques pour enfin se réveiller, prendre leur téléphone et téléphoner à leur homologue israélien en disant « Vous ne touchez pas à cette flottille, parce que pour l'instant, le gouvernement israélien annonce autre chose. » Et donc, d'être ferme, de dire « Cette flottille ne fait rien d'illégal. Ils apportent de l'aide humanitaire. Ils veulent ouvrir un couloir humanitaire. Ils sont protégés par le droit international. C'est une action non violente. Donc, vous ne touchez pas à la flottille et vous ne touchez pas en particulier à notre dizaine de ressortissants belges qui sont à bord. » C'est ça qu'on veut entendre du Premier ministre, plutôt que ses petites remarques cyniques, désabusées, où il est visiblement content de lui quand il dit ce que la Belgique a déjà fait, ce qui est insuffisant. Et notamment, je pense au dropage de l'aide humanitaire par avion, qui était totalement insuffisant, voire dangereux. Et donc, on compte sur le soutien du gouvernement, de notre gouvernement, de notre Premier ministre. Il n'est pas trop tard, mais ça devient moins une. Hein.
Oui, ouais, et on continue à l'exiger. Hier, on a enregistré un entretien avec Nabila qui était qui est une Palestinienne de Gaza, qui a quitté Gaza il y a pas très très longtemps et qui a dû laisser sa fille, sa grande fille comme elle dit, qui n'a pas pu quitter l'endroit avec elle. Et donc Nabila se trouve en Turquie maintenant, donc elle a accepté de nous parler et elle nous a raconté la fin. Elle nous a raconté ce qu'on ne voit pas en fait à la télévision et sur Internet. Elle nous a raconté à quel point les Palestiniens et les Palestiniennes attendent cette aide de cette flottille. Et ils sont tout à fait. Enfin, c'est très clair pour eux que c'est une aide humanitaire. Hein. Il n'y a vraiment que le cynisme des politiques qui a choisi de ne pas voir ça.
Mais effectivement, alors sur la famine d'abord, rappelons quand même que les Nations Unies ont reconnu et constaté qu'il y avait une famine organisée dans le cadre du génocide en cours. Ce ne sont pas des juristes ou des participants à la flottille ou des droits de l'hommistes qui le disent, c'est les Nations Unies qui l'ont déclaré officiellement. Donc il faut que nos politiques enregistrent ça. Il y en a et aussi des journalistes qui ont toujours du mal à utiliser le mot génocide et famine organisée, qui continuent à mettre ça entre guillemets. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne pense pas qu'ils ont appris ça à l'école de journalisme. Et c'est simplement parce qu'ils continuent à être perméables au narratif et à la propagande israélienne. Et donc ça, il faut que ça change. Donc voilà, alors... L'aide humanitaire que les bateaux, que la cinquantaine de bateaux apporte sera évidemment insuffisante, mais l'objectif de cette mission, c'est d'ouvrir ce couloir humanitaire par la mer pour que l'aide humanitaire puisse être apportée par d'autres, sachant que tous les camions d'aide humanitaire, et notamment ceux de l'Union européenne, sont bloqués à la frontière avec Gaza parce qu'il y a un veto des autorités israéliennes qui refusent que les camions entrent. Et donc, la seule solution, c'est par la mer. Souvenons-nous qu'il y a un an et demi, les Américains, les États-Unis ont construit un ponton qui a coûté de mémoire 200 millions de dollars vers Gaza, le port de Gaza City. Ça a été utilisé un petit peu et puis Israël a bombardé ce ponton et personne n'a rien dit, même, surtout pas les Américains. Donc, l'idée d'un couloir humanitaire par la mer n'est pas loufoque.
Non, non.
C'est la seule possibilité. Et donc, on voit que le gouvernement israélien nous attaque. Il traite la flottille de flottille du Hamas. Les flottilles précédentes, il s'en moquait en disant que c'était les selfie boats, etc. Ici, il ne se moque plus. Ils nous attaquent, ils essayent de nous discréditer. Et donc, ça montre qu'on est dans le bon. Hein, parce que comme disait Gandhi, pour le citer, au début, ils t'ignorent, ensuite, ils se moquent de vous, ensuite, ils vous combattent,
ouais.
Et puis vous gagnez. Mmh. Et donc, maintenant, on voit qu'ils nous combattent. On est déjà un stade plus loin. Et donc, on espère qu'on va réussir. Et ça, on sait qu'on ne peut faire que si on a le soutien de nos gouvernements.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Si les 44 gouvernements des 44 nationalités représentées tapent fermement sur la table, téléphonent à leur homologue israélien en disant « il n'est pas question que vous touchiez à la flottille », eh bien, la flottille, elle peut réussir. Et donc, nos gouvernements se racheteraient parce que pour l'instant, ils ont surtout brillé par leur inaction. Et là, ils pourraient agir en conformité avec le droit international humanitaire, pour que cette aide humanitaire puisse arriver à la population palestinienne à Gaza, qui fait face à l'urgence humanitaire absolue.
Oui, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que mercredi, il y aura un rendez-vous devant le ministère des Affaires étrangères, donc rue des Petits Carmes, numéro 15, organisé par l'ABP en... pour exactement ce que tu viens de dénoncer, et aussi en soutien à la flottille, parce que c'est un tout, évidemment. Et donc, le rendez-vous est donné. Voilà, je voulais juste
magnifique,
pouvoir le rappeler.
Ce sont des rendez-vous importants. Il faut, et on sent sur la flottille qu'il y a vraiment un soutien important des citoyennes et des citoyens en Belgique, en Europe, que la flottille est vraiment soutenue par les populations européennes. Et ce soutien-là et les rassemblements, les manifestations doivent forcer nos gouvernements à aussi nous soutenir. Parce que nous ne faisons rien d'illégal, parce que nous sommes non-violents, que l'objectif de la mission est tout à fait conforme au droit international et apporte que de l'aide humanitaire.
Oui. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci et on continuera de le dire autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'on soit entendu. Merci à toi.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonjour à tout le monde, à tous les soutiens. Au revoir.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Belux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.